Pentecôte, que tous les croyants, d'une certaine manière, étaient devenus des prophètes, par le fait que l'Esprit Saint vient nous habiter, et il fait de nous des porte-paroles du Seigneur, porte-paroles de Dieu, témoins de son évangile, et donc, d'une certaine façon, des prophètes, puisque un prophète, ce n'est rien d'autre qu'un porte-parole de Dieu. Cette réalité nouvelle, venue avec la Pentecôte, doit bien ouvrir des perspectives nouvelles dans l'Église, dans la vie de l'Église, et en particulier pour la réalité de la prophétie dans l'Église. Et c'est cette question-là que je vous invite à examiner ensemble ce matin, à partir d'un texte, de deux textes extraits du même chapitre de la première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 14. Nous lirons d'abord les versets 1 à 4. À Corinthiens 14, 1 à 4, je lis toujours dans la version Parole de vie, en français fondamental. Cherchez avant tout à aimer les autres. Désirez les dons de l'Esprit Saint, surtout le don de parler au nom de Dieu, le don de prophétie. Si quelqu'un parle en langue inconnue, il ne parle pas aux gens, mais à Dieu. Personne ne le comprend. Avec l'aide de l'Esprit Saint, il dit des choses mystérieuses. Mais si quelqu'un parle au nom de Dieu, il parle aux gens. Il construit la communauté, il encourage et il console. Celui qui parle en langue inconnue ne construit que lui-même. Au contraire, celui qui parle au nom de Dieu construit la communauté tout entière. Et la fin de ce chapitre 14 de Corinthiens, nous lirons les versets 26 à 33. On s'arrêtera au verset 33. Alors, frères et sœurs chrétiens, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand vous êtes réunis, chacun peut chanter ou enseigner, faire connaître une chose cachée ou bien traduire ce qu'on vient de dire, mais tout cela doit servir à construire la communauté. Si des gens veulent parler en langue inconnue, deux personnes peuvent le faire, trois ou plus, mais l'une après l'autre. Et il faut traduire. S'il n'y a personne pour traduire, ils doivent se taire, chacun parlera seulement à lui-même et à Dieu. Deux ou trois peuvent parler au nom de Dieu. Les autres doivent examiner ce qu'ils disent. Mais si Dieu donne un message à quelqu'un d'autre, celui qui est en train de parler doit se taire. Oui, vous pouvez tous parler au nom de Dieu, mais l'un après l'autre. Alors, tous recevront l'enseignement et seront encouragés. Ceux qui parlent au nom de Dieu restent maîtres du don que Dieu leur a fait. En effet, Dieu n'est pas pour le désordre, mais pour la paix. Dans ce chapitre, qui est plus largement, dont il est plus largement question des dons spirituels en général et de leur pratique dans la vie de l'Église, Paul ici insiste particulièrement sur la prophétie, ce que la version Parole de vie qu'on vient de lire traduit par « parler au nom de Dieu ». C'est une bonne paraphrase pour parler de la prophétie. C'est bien ce sujet-là qui est au cœur des préoccupations de l'apôtre Paul, parce qu'il insiste en disant « c'est ce don-là qui est le plus important pour l'Église ». « S'il n'y en a qu'un que vous devez absolument rechercher, dit Paul aux Corinthiens, c'est ce don-là. Les autres sont importants, mais celui-là a une importance particulière. De quelle prophétie s'agit-il alors ? Ou dit autrement, pour reprendre la façon dont Parole de vie traduit ce terme-là, comment est-ce que nous pouvons entendre Dieu nous parler en Église aujourd'hui ? Parce que finalement, c'est cette question-là que pose la question de la prophétie dans l'Église et de ce texte de l'Épître aux Corinthiens. Comment, aujourd'hui, en Église, nous pouvons entendre Dieu nous parler ? Je vous propose de considérer trois aspects complémentaires de la prophétie à partir de ce texte de la première aux Corinthiens. La première chose, le premier élément, c'est que la prophétie apparaît comme un don donné pour l'édification. C'est le but premier de la prophétie. Elle est donnée pour l'édification, la construction, de l'Église. C'est d'ailleurs ce qui distingue dans ce texte clairement la prophétie du don du parler en langue, parce qu'il dit que celui qui parle en langue s'édifie lui-même, alors que celui qui parle au nom de Dieu édifie l'Église. Et c'est pour cela que le don de prophétie est essentiel, d'après l'apôtre Paul, pour l'Église. De quoi parle-t-on quand on parle de prophétie ici? Alors, vous savez sans doute que c'est une question en débat dans les églises évangéliques. Il y a différentes conceptions, différentes compréhensions, différentes façons de vivre cette dimension-là, mais nous ne pouvons pas la laisser de côté puisqu'elle est présente clairement, notamment dans ce texte de l'Écriture. Je ne pense pas qu'il faille comprendre ici la prophétie forcément comme des messages express venus de la part de Dieu que quelqu'un entendrait comme ça et qu'il retranscrirait, ou des visions, ou des songes, ou des rêves. Et d'ailleurs, pourquoi pas, Je veux dire, il ne s'agit pas de dire que ce n'est pas possible. Qui serions-nous pour dire ce que Dieu doit faire et comment il doit le faire? Mais n'empêche que je ne pense pas que ce soit la chose la plus traditionnelle, la plus habituelle, la façon la plus habituelle que Dieu aurait de donner un message provenant de sa part, une prophétie. Ici, quand on regarde ce que Paul dit de la prophétie, il dit, je rappelle, pour l'édification. Il s'agit de parler au nom de Dieu pour transmettre un message qui édifie l'Église. Si on prend cette définition, est-ce que la prédication ne correspond pas assez bien à cette définition? Qu'est-ce que la prédication? Sinon, quelqu'un qui parle au nom de Dieu en se fondant sur la parole de Dieu dans le but d'édifier l'Église. Est-ce qu'on ne peut pas considérer la prédication dans l'Église comme au moins un aspect de la prophétie, du message que Dieu transmet à son Église pour l'édifier? Allons même un peu plus loin. Qu'est-ce qui dans l'Église peut édifier la communauté? Qu'est-ce qui peut vous édifier au cours d'un culte, par exemple? Alors, j'ose espérer que la prédication puisse vous être utile, quelque peu utile de temps en temps. On va dire, la minute des enfants qu'on a à chaque fois, ah oui, certains disent oui, voilà, c'est une autre façon d'édifier. Mais plus largement encore, un témoignage, entendre un témoignage, est-ce que ce n'est pas aussi un moyen d'édification? Et même une prière, vous n'avez jamais été édifié par une prière dite lors d'un culte, ou un cantique, un chant, qui à un moment donné, ce jour-là, ce dimanche-là, vous parle, et comme un message que Dieu vous adresse. Alors vous me direz peut-être, bon là tu pousses un petit peu loin le bouchon, la prophétie, les chants, les prières, les témoignages, mais que dit l'apôtre Paul ici, et même ailleurs encore plus explicitement? Éphésiens 5, verset 19, littéralement, parlez-vous les uns les autres par des cantiques, des hymnes et des chants spirituels. C'est littéralement parlez-vous par des chants et des cantiques. Autrement dit, lorsque les chrétiens sont réunis et chantent des cantiques, non seulement ils expriment leur louange à Dieu, ils parlent à Dieu, mais aussi d'une certaine façon ils se parlent les uns aux autres. Les cantiques, les prières, les témoignages, ne peuvent-ils pas être aussi des prophéties, des messages venant de Dieu pour édifier son Église? Et du coup, pourquoi ne pas élargir encore, aller encore un peu plus loin? Peut-être dans le prolongement de ce que Anne a dit tout à l'heure sur la prière. En l'entendant, je me disais, ça me prépare bien ce que j'ai envie de dire tout à l'heure. Parce que la prière, c'est pas seulement de parler, c'est parfois une prière silencieuse, parfois la musique, parfois danser, c'est aussi prier. Est-ce que Dieu ne peut pas nous parler et édifier son Église par autre chose que des paroles explicites, des expressions artistiques diverses? Est-ce que vous n'avez jamais été touché, même édifié peut-être, par certaines expressions artistiques, peinture, musique, danse ou autre? Pourquoi limiter la façon dont Dieu peut nous parler à simplement une parole dite par quelqu'un à quelqu'un d'autre qui écoute, prédication ou autre? Dieu ne peut-il pas édifier son Église de multiples façons? Et quand l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Corinthe, ce qu'il vous faut rechercher à tout prix, c'est le don de prophétie, ne leur dit-il pas simplement, soyez en tout temps, en toutes circonstances, lorsque vous vous réunissez, attentifs aux façons dont Dieu veut vous parler. Soyez attentifs aux messages que Dieu veut vous transmettre, aux prophéties qu'il vous donne, de multiples façons. Il serait dommage de limiter notre compréhension de la prophétie dans l'Église et d'ainsi risquer de nous limiter, les occasions que nous laissons à Dieu de nous parler. Essayons de trouver comment Dieu peut nous parler aujourd'hui. Et avoir une compréhension plus large de la prophétie, comme je le propose ce matin, c'est donner aussi toute leur vraie valeur à toute prise de parole publique lors du culte, lorsque nous sommes réunis en Église. Toute prise de parole, toute expression publique peut devenir un moyen que Dieu utilise pour nous parler, pour nous édifier, parce que nous croyons que Dieu agit au milieu de son peuple. Ne limitons pas les façons dont Dieu pourrait nous parler. La prophétie, donc, les prophéties, sont données pour l'édification. Mais une deuxième caractéristique que souligne l'apôtre Paul ici, c'est la spontanéité dans laquelle est appelée à se vivre cette prophétie. C'est peut-être une dimension qui est un petit peu négligée dans nos églises, la spontanéité. Sans doute par crainte du désordre ou des dérapages. C'est pas toujours contrôlable, la spontanéité. On sait pas toujours où ça va aller. D'ailleurs, c'est un peu ce qui se passait à Corinthe, hein. C'est pour ça que l'apôtre Paul écrit aux Corinthiens sur ce sujet. C'est parce que ça allait dans tous les sens. Vous savez, un culte, l'église de Corinthe au 1er siècle, ça devait être un joyeux bazar, hein. Ça devait aller dans tous les sens, absolument incontrôlable. Et l'apôtre Paul doit justement écrire pour dire, allez, attention, ne faites pas n'importe quoi. Il faut mettre un petit peu d'ordre dans tout cela. Et il fixe des limites, il donne des cadres. Il dit, n'allez pas au-delà. Il dit des choses qui peuvent paraître évidentes. Que quand il y en a un qui parle, que les autres se taisent. En gros, c'est ça qu'il dit à un moment donné. Ça nous paraît tellement évident, mais ça veut dire que ça se passait pas comme ça à Corinthe, hein, s'il le dit. Donc ça devait être, bon, ça peut pas être triste, hein, quand même, un culte à Corinthe au temps de l'apôtre Paul. Mais, pour autant, il ne faut pas, comme on dit, jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que c'est pas parce que Paul ici va dire il faut faire attention de ne pas faire n'importe quoi, qu'il faut laisser de côté l'idée d'une spontanéité, de quelque chose qui puisse jaillir comme ça dans le culte et dans l'Église. Parce que l'apôtre Paul souligne explicitement l'importance d'une pratique qui intègre cette spontanéité. C'est le verset 26. Quand vous êtes réunis, chacun peut chanter ou enseigner ou etc. Chacun. Ce chacun souligne qu'il n'y avait pas qu'une ou deux personnes qui avaient l'autorité et la possibilité de parler, mais que chacun dans l'Église avait cette possibilité de s'exprimer, de dire quelque chose. Cette idée de spontanéité, elle est bien en accord avec ce que l'on a vu la fois précédente, à savoir que le Saint-Esprit habite chaque croyant. Il n'habite pas seulement le pasteur ou le prédicateur. Il habite chaque croyant. Le Saint-Esprit habite en chacun de nous. Et donc, il peut très bien utiliser l'un ou l'autre de tous ceux qui l'habitent pour transmettre à l'Église quelque chose, un message, une exhortation, un encouragement, une consolation. Même s'il faut reconnaître qu'il y a, bien sûr, dans l'Église, aujourd'hui comme hier et demain encore, des ministères spécifiques, des gens qui sont appelés à un service particulier, qui ont une formation pour ce service particulier, il faut faire attention de ne pas trop tomber dans une professionnalisation de la participation, de l'animation, de la prise de parole dans l'Église, où ce serait que les pros, les professionnels, qui pourraient s'exprimer. Parce que ce serait peut-être prendre le risque de limiter la façon dont Dieu veut nous parler en Église. me dis que si l'apôtre Paul, au temps des Corinthiens, a dû resserrer un peu les boulons dans l'Église parce que ça allait un peu dans tous les sens, fixer des limites hein, pour dans la pratique du culte, je me dis peut-être que si l'apôtre Paul devait nous écrire aujourd'hui, peut-être qu'il ferait l'inverse. Peut-être qu'il ne nous appellerait pas à resserrer les boulons, mais à élargir un petit peu les choses, à faire éclater peut-être certains cadres, et à favoriser, il nous encouragerait peut-être à favoriser plus la spontanéité. Alors on dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire ? On n'a pas envie pour autant de tomber dans l'extrême des chrétiens de Corinthe, que ça devienne du tout et du n'importe quoi. Et il est vrai que dans certains contextes et dans certaines circonstances, il est plus facile de vivre une spontanéité que dans d'autres cas. Et peut-être qu'il faudrait d'abord favoriser des lieux, des moments qui permettent la spontanéité. Parce que, alors si on est une centaine là, le dimanche matin, c'est pas évident de gérer la spontanéité lorsqu'on est nombreux. C'est plus difficile à contrôler. Mais il y a d'autres cadres qui sont possibles. C'est plus facile d'être spontané quand on est dans un groupe de maison, quand on est assis autour d'une table, quand on est à 5, 6, une dizaine. Là, la spontanéité est plus facile à générer. Et c'est aussi l'Église qui se réunit lorsque, ici ou ailleurs, des croyants, des chrétiens se réunissent pour prier, pour lire la Bible ensemble. Et peut-être que si nous voulons favoriser la spontanéité dans notre Église, pour favoriser aussi les façons de laisser à Dieu de s'exprimer et de transmettre des messages à l'Église, peut-être qu'il faut favoriser ces lieux plus conviviaux, plus réduits, plus petits, des groupes de maison, qui permettent de favoriser la spontanéité. Et peut-être, pourquoi pas aussi réfléchir, hein, on le fait de temps en temps avec nos présidents de culte, à trouver des moyens de favoriser aussi le dimanche matin la spontanéité. Nous devons, je crois, entendre ce message, entendre cette dimension qui est présente ici dans l'enseignement de l'apôtre Paul, que chacun peut parler, peut enseigner, peut transmettre même un message de la part du Seigneur. Comment intégrer cette spontanéité ? Nous avons là peut-être une réflexion et un défi à relever ensemble. Le troisième élément que j'ai déjà un petit peu évoqué, mais qu'il faut quand même souligner, ce que fait l'apôtre Paul ici, c'est que cette prophétie, cette façon de vivre ensemble, d'entendre la parole de Dieu pour l'édification avec spontanéité, doit se faire aussi dans le contrôle. Il y a un impératif de contrôle, pour ne pas tomber dans le désordre, pour ne pas faire tout et n'importe quoi, un contrôle qui concerne à la fois la forme et le contenu. À propos du fond, du discernement quant au fond, sur le contenu de ce message transmis de la part de Dieu, il faut dire, il faut réaffirmer qu'aucune parole prophétique dans l'Église aujourd'hui n'est une parole absolue. Aucune parole prophétique aujourd'hui dans l'Église, quelle qu'elle soit, même derrière cette chair, n'est pas absolue. Toutes paroles doivent être évaluées, peser, confronté à l'écriture, et peut-être contester ou critiquer. Verset 29 de ce texte, l'apôtre Paul dit « Deux ou trois peuvent parler au nom de Dieu, les autres doivent examiner ce qu'ils disent. » C'est pas « les autres doivent entendre, doivent recevoir », non, ils doivent examiner ce qu'ils disent. Autrement dit, ça sous-entend qu'il faut porter un regard critique, avoir un recul critique sur toute parole dans l'Église dite au nom de Dieu. Personne n'a une autorité absolue dans l'Église pour dire une parole qu'il faut recevoir comme parole d'Évangile. Parce que si le Saint-Esprit habite en nous, et c'est vrai, et nous le croyons, nous ne sommes pas Dieu pour autant. Et nos paroles dites même au nom de Dieu peuvent être contaminées par nos paroles humaines. Elles peuvent être contaminées par nos pensées, nos aspirations, nos motivations humaines, par les limites de notre intelligence et de notre compréhension, les limites de notre sagesse. Un contrôle quant au fond un discernement quant au contenu de toute prophétie, de toute parole dite au nom de Dieu dans l'Église, est un impératif pour tous. Ne gobez jamais tout cru ce que vous entendez à l'Église. Entendez-le, examinez-le, soupesez-le à la lumière de l'Écriture, et alors recevez-le de façon éclairée. Un contrôle quant au fond, mais aussi un contrôle quant à la forme. Et là, c'est un contrôle sur la façon de vivre. Alors, ça rejoint un petit peu ce qu'on évoquait avec la spontanéité tout à l'heure. Un contrôle qui est exercé par la communauté sur ceux qui prophétisent. L'apôtre Paul dit, quand l'un parle, les autres écoutent, deux ou trois peuvent parler. Quand il y en a un qui veut parler, que l'autre se taise. Enfin bref, il faut que ça soit régulé. Il ne faut pas que ça soit le grand bazar et le grand n'importe quoi. Mais aussi, un contrôle de la part de celui qui parle en prophète. La façon, même à Corinthe, la façon de vivre la prophétie pour l'apôtre Paul, ce n'est pas d'entrer en transe comme ça et d'avoir une parole qui n'est plus contrôlée par notre propre intelligence. L'apôtre Paul dit bien, c'est verset 32, alors la version traditionnelle c'est « l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes ». Mais c'est une formule qu'on ne comprend pas toujours, et je trouve que la traduction proposée par Parole de Vie est assez éclairante. Ceux qui parlent au nom de Dieu restent maîtres du don que Dieu leur fait. C'est bien ça. Ce n'est pas des paroles incontrôlables et incontrôlées, ce sont des paroles dites au nom de Dieu, mais avec contrôle, avec maîtrise. Et pourquoi est-ce qu'il y a besoin de ce contrôle? Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de cette maîtrise dans l'Église? Pour une chose claire, et c'est ce que développe l'apôtre Paul, on ne l'a pas lu ici, c'est dans les versets intermédiaires, nous avons sauté le passage tout à l'heure, c'est pour qu'il y ait un message clair qui soit transmis. S'il n'y a pas de message clair, il n'y a pas d'édification possible. Et pour qu'un message clair soit transmis, il faut qu'il y ait une certaine organisation, un certain contrôle, une maîtrise de la situation. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul dit, par ailleurs, on oppose le don de prophétie au don du parler en langue, en disant, celui qui parle en langue, s'il n'est pas traduit, il faut qu'il se taise, ça ne sert à rien, on ne peut pas comprendre. S'il est traduit, d'accord, ça va. Et il dit, mais cherchez d'abord le don de prophétie, parce que là c'est un message clair de la part de Dieu pour édifier l'Église, et on peut entendre, on peut comprendre, et alors on peut être édifié. Voilà, simplement pour conclure, la prophétie dans l'Église, aujourd'hui finalement, c'est pas si compliqué que ça. Mais ça demande un effort d'écoute. Ça demande de prendre le risque de la spontanéité, tout en gardant le contrôle de soi et le contrôle de la communauté. Alors peut-être que c'est pas si compliqué que ça en théorie, ça l'est peut-être un peu plus en pratique. Ça demande une certaine maturité, un minimum d'organisation, et Dieu n'est pas contre cela, comme le rappelle l'apôtre Paul, il n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Réapprenons donc ensemble à entendre Dieu nous parler aujourd'hui. Il veut nous parler par notre frère, par notre sœur. Et si nous ne faisons pas l'effort de nous rencontrer vraiment, pour nous écouter vraiment, alors nous aurons du mal à entendre Dieu nous parler aujourd'hui dans l'Église. Amen.